Je vous invite à rentrer dans le magazine Dialogue entre Congolais avec Alain Hirung.
Bonsoir, un seul thème dans cette émission, révisitation des contrats miniers à une semaine de l'expiration du délai accordé à l'entreprise Saint-Kifungurume Mining d'augmenter les parts de la GK Mine. Cette entreprise minière dit qu'elle ne révisitera pas sa première convention signée entre elle et la RDC. Pourquoi ce refus de la part de TFM? Quelles sont les chances pour les deux parties de parvenir à un compromis? Trois invités prennent part à cet échange. Célestin Vounabandi, député national RCD. Il était ministre du portefeuille à l'époque de la signature du contrat avec Saint-Kifungurume. Il est en ligne. Bonsoir, honorable.
Bonsoir.
Jean Bouillou, député national PPRD et ancien ministre de l'Industrie. Il est également avec nous dans ce studio. Bonsoir, monsieur le député national.
Bonsoir.
Willy Kalengai, journaliste, directeur général de Géopolis, un magazine spécialisé dans le domaine des ressources naturelles. Il est aussi avec nous dans ce studio. Bonsoir, Willy.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778. Ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Saint-Kifungurume Mining va-t-il survivre face au processus de révisitation des contrats miniers? Ce processus, entamé depuis plus de 10 ans, visait à améliorer les bénéfices de l'État dans une soixantaine des contrats que certaines firmes étrangères avaient signés avec les entreprises minières publiques comme la GK Mine, l'Okimo, la Sodimico et autres. Ce processus est terminé pour beaucoup de contrats qui ont proposé d'améliorer les parts et il s'est avéré non concluant pour une entreprise, Kinga Miambo Musonoi Tailings KMT, filiale du Canadien First Quantum. Cette dernière, avec un investissement de 600 millions de dollars, a été même fermée par le gouvernement congolais et le dossier se trouve devant la justice. KMT et Tinké sont les deux grands investissements dans le secteur minier. Nous recevons dans ce studio Georges Kamdjova. Georges, vous présentez l'émission Écho d'économie sur Radio Okapi et depuis un temps, vous suivez cette actualité.
Oui, effectivement, c'est comme vous l'avez dit, le plus grand investissement dans le domaine minier TNK, Fungurume Mining, filiale du minier américain Freeport-McMoRan, qui est lui-même d'ailleurs premier producteur mondial de cuivre. Donc TFM, c'est un investissement de près de 2 milliards de dollars. Alors au Conseil extraordinaire des ministres du 4 août dernier, le gouvernement a préféré que les dernières négociations pour ces contrats se fassent dans 60 jours. Alors ce délai pour harmoniser le contrat TFM expire peut-être la semaine prochaine et les deux parties entament peut-être aussi leur dernier virage dans cette négociation.
Et comment avancent ces négociations?
Bon, on dirait que les négociations se passent presque à huis clos. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement et les deux parties sont très très réservées dans leurs déclarations, surtout à ce stade, et on sent que les bras de fer demeurent encore fort. Hier, nous recevions le chargé de communication de Saint-Kifungurume Mining qui disait que TFM s'en tenait à la convention signée avec le gouvernement congolais. Et ils pensent que leur contrat est transparent, juste et doit s'exécuter sans modification. Alors, notez bien le terme, doit s'exécuter sans modification, pourrait être interprété comme un refus de n'échanger d'aucun iota.
Alors, le gouvernement attend finalement quoi de TFM?
Alors, le Conseil des ministres avait exigé que TFM paye 30 millions de dollars comme prime de production sur l'ensemble des réserves de cuivre et de cobalt. Le gisement de TNK est quand même un gisement assez important et riche en métal, c'est-à-dire 4 ou 5% de cuivre, alors que certains gisements au Chili, le Chili qui est premier producteur de cuivre, certains gisements dépassent rarement 1%. Le gouvernement souhaite en deux que les parts de la GK Mine dans ce contrat arrivent jusqu'à 20 ou 25%, parce qu'actuellement la GK Mine ne détient que 17,5% de TNK. Est-ce que TNK va améliorer tout ce qu'on lui demande? TFM s'en tient à sa convention.
Convention signée entre TFM et l'État congolais, il faut le préciser, en 2005.
En 2005, l'État congolais était représenté par le ministre des Mines à l'époque, Ingele Ifoto. Et je crois que le ministre de Portefeuille aussi, en ce moment-là, Célestin Vounabandi, cette convention a été confirmée par un décret présidentiel de 2006 et un autre décret du Premier ministre en 2008, selon certains responsables de TFM.
Alors, dernière question, Georges, est-ce qu'on sait pourquoi TFM refuse de révisiter?
Bon, Tinké estime que sa convention avec le gouvernement congolais est conforme aux lois du pays. En plus, l'entreprise a fait déjà beaucoup, qu'on ne devrait pas lui exiger encore de payer d'autres montants. C'est samedi avoir payé 100 millions de dollars en termes de taxes et redevances ces deux dernières années. La compagnie cite aussi 140 millions versés à la SNEL pour réhabiliter le barrage de Nseke. Alors, des routes arrangées, et TFM déclare même que 50% des bénéfices provenant de sa première phase seront versés à l'État congolais. Il y a toute une litanie, dont aussi les 3500 emplois. Alors, sont cela des arguments qui pèsent dans ces négociations? Les responsables de TFM le pensent, mais certaines ONG travaillant dans les ressources naturelles estiment toujours que ce contrat est déséquilibré. Et c'est peut-être ça aussi la vision du gouvernement congolais.
Merci Georges Kamujova. Célestin Vounabandi, vous êtes député national RCD, il était ministre du portefeuille à l'époque de la signature du contrat avec Tinké Fungurume. Mais pensez-vous que ce refus de TFM d'augmenter les parts de la GECAMIN se justifie aujourd'hui?
Écoutez, je ne sais pas, je ne pense pas que ce refus soit justifié. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de répondre à la place de celui, donc le partenaire privé qui refuse, n'est-ce pas, qui s'oppose à tout niveau de la négociation. En fait, la question est plutôt celle de savoir si les raisons qui sont les siennes, c'est-à-dire les raisons qui sont prises avance, sont pertinentes, sont acceptables. Il faudrait savoir, en fait, qu'en règle générale, aucun partenaire privé, aucun homme d'affaires ne peut n'accepte facilement, n'est-ce pas, de renégocier un contrat qu'il a déjà conclu avec l'État, n'accepte pas du tout facilement les principes de la révisitation. La tendance à la résistance est une tendance, une attitude naturelle pour les partenaires privés, tout simplement parce que les privés considèrent que les bonnes affaires exigent un minimum de pérennité, un minimum de stabilité. Mais en fait, ici, le problème qui se pose est celui de, pour le privé, de courir le risque de se retrouver dans un environnement tout à fait incertain si chaque fois que l'État doit poser le problème de révisitation. Mais ceci dit, il s'agit là que d'un principe, d'un postulat qui n'explique pas que lorsque le gouvernement constate que ses intérêts sont été bradés, et il est tout à fait normal, mais de son bon droit, qu'il fasse une relecture et qu'il exige une révisitation. En définitive, donc ici, toute la question consiste à savoir quels sont les griefs qui sont portés à l'endroit de ce contrat et quelles sont les motivations qui sont apportées par le privé, par le partenaire privé pour refuser la renégociation.
Merci. Permettez-moi de vous arrêter à cet endroit parce que nous avons deux autres invités. Nous vous gardons dans cette émission. Vous allez continuer à réagir encore sur d'autres questions. Maître Jean Bouillou, vous êtes député national PPRD. À l'époque, vous étiez ministre de l'Industrie. Célestin Vounabandi, ancien ministre du Portefeuille, n'a pas pu clairement nous dire si la position des TFM se justifiait. Qu'est-ce que vous en dites?
Bon, je crois que pour comprendre les différences d'aujourd'hui, il faut partir de l'historique. TFM n'avait pas été le négociant premier de Tinké Fungurume. Tinké Fungurume, qui est une réserve importante de cuivre et de cobalt, avait été négocié par la société qu'on appelle Lundin. Lundin, dans cet arrangement avec la GECAMIN, avait, disons, cédé à la GECAMIN 40% pour la GECAMIN et 60% pour lui. Et il avait également accepté de payer ce qu'on appelle le pas de porte, donc une sorte de, on dirait ça, de kifungamula qu'on donne avant de
traduire en matière,
disons un montant qui est par lequel la société négociatrice accorde une certaine disons faveur à son partenaire en disant bon je dépose ça pour garantir ma sécurité, que vous n'avez pas négocié avec quelqu'un d'autre, vous allez donc me réserver des droits.
Alors, ce pas de porte avait été de 250 millions de dollars sur lesquels avait été versé 50 millions. Alors, par la suite, à la fois des choses, Lundin n'a pas su continuer ce contrat et a donc dû le négocier avec Freeport. À l'époque, c'était une autre société, c'était pas Freeport. Et quand cette nouvelle société est venue pour rencontrer la Gécamines, elle a modifié les termes de la négociation de Lundin. Par exemple, sur 40-60, la nouvelle société a dit non, moi je n'accepte pas de vous accorder 40, je ne vous accorde que les 5% qui sont reconnus par le code minier comme devant être la part de l'État. La Gécamines avait objecté à l'époque en disant non, moi je ne suis pas l'État, j'ai une personnalité juridique distincte de la personnalité de l'État. Et alors, il s'est trouvé dans une position où l'État a reçu 5% et la société Lundin, la société Freeport actuellement, dit je ne vous accorde pas plus de 12,5%. Ce qui fait que la Gécamines et l'État totalisent aujourd'hui dans cette société, dans ce partenariat, 17,5%. Alors la réclamation de l'État et de la Gécamines ont toujours été de porter ce pourcentage au-delà de 17,5%. Et quelle est la raison majeure qu'ils évoquent? Ils évoquent que dans le partenariat avec la société Tekofungurume, nous acceptons le principe que la société va travailler toutes les premières années pour rembourser son endettement à l'extérieur, cet endettement qui est plus ou moins de 2 milliards de dollars. Alors, puisqu'ils auront bénéficié de ce remboursement, le montant qui restera plus tard à partager ne devra pas rester à 17,5% contre 82,5%, je crois, ou 82 à peu près, disons, en moyenne. Et donc, l'État congolais, la Gécamines, disent, quand vous aurez remboursé votre endettement de 2 milliards, nous préférons que nous puissions avoir un partage plus ou moins équitable. Et là, c'est le premier point d'achoppement. Et l'autre point d'achoppement, c'est le fameux pas de porte. La société qui a négocié à l'origine avait obtenu, avait accepté de payer 250 millions de dollars. La nouvelle société n'a pas accepté de 250 millions de dollars. Elle a accepté seulement 50. Et après négociation, elle est montée à 100. Or, les 50 premiers avaient déjà été payés au gouvernement congolais à l'époque, et donc elle avait accepté de n'ajouter que 50 millions.
Alors, le refus de TFM, c'est justifié?
Le refus de TFM entre dans le cadre du code minier, parce que le code minier a interdit à l'État congolais de disposer de plus de 5%, et a obligé les sociétés minières de ne pas, recourir aux exonérations, ils devaient payer tous les impôts. Alors, Tekofungurume, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, moi, je vais payer tous les impôts, à l'import, à l'export et tout ça, je ne bénéficierai pas d'exonération, alors que l'État comptabilise également tout ce que je vais payer à différents organes au lieu de bénéficier d'exonération. Tandis que l'État dit, d'accord, tu vas payer, mais quand tu auras remboursé les dettes, tiens compte du fait que tu devras nous payer une répartition plus équilibrée, non plus de cité de lui, mais un peu plus. Et entre-temps aussi, en attendant que tu aies remboursé cette dette, tu devras payer des royalties, c'est-à-dire des sommes d'argent, par le fait qu'une fois les gisements épuisés, nous n'aurons plus rien en main, donc il faut nous compenser sur ça. C'est ça plus ou moins le point d'achoppement aujourd'hui.
Willy Kalinga, il y a Gabi Loisi de Nyangezi au sud Kivu qui dit « Quels sont les mobiles qui poussent le gouvernement congolais à revisiter les contrats de certaines entreprises minières alors qu'il les avait signés en bonne et due forme ?»
Nous sommes en présence du plus grand défi auquel est confronté aujourd'hui le gouvernement issu des élections. Il ne faut pas l'oublier. Tekofungurume, c'est la plus grande réserve dans le monde, dans la matière de cuivre et de cobalt. Le gouvernement issu des élections a eu une mission du dialogue entre Congolais. C'est le dialogue entre Congolais qui avait exigé que le gouvernement qui sera issu des élections puisse avoir comme mission de revisiter les contrats, parce que la plupart des contrats ont été signés pendant que nous étions dans la période de rébellion. C'est ça d'abord la légitimité historique de cette révisitation, et c'est une très bonne chose que de revisiter les contrats. Il n'y a aucun gouvernement au monde à qui on peut imposer le droit des faits sans qu'il ait le pouvoir de regarder ce qu'il a signé. C'est aussi vrai, je vous ai dit tout à l'heure que c'est le plus grand défi parce que c'est le plus grand partenaire auquel le gouvernement est confronté aujourd'hui. Cette épreuve de force va déterminer deux choses. La première, qui est la capacité du gouvernement à négocier avec un partenaire puissant. Et la deuxième, comment un partenaire puissant, comme Tekofungurume, peut subsister dans un environnement comme le nôtre, où il apparaît clairement qu'il y a comme une forme de deux poids, deux mesures. Pourquoi d'autres entreprises ont accepté de négocier et que son groupe n'accepte pas de négocier? Parce que les autres entreprises peuvent aussi revendiquer, par rapport à l'État congolais, le fait d'avoir des documents déjà signés. Voilà un peu la situation dans laquelle nous sommes. La question a quitté le domaine technique. Toutes les discussions techniques, là, n'aboutissent qu'à une seule question, la question politique. C'est une question politique, et parce qu'elle est dans ces zones-là, elle est difficile aujourd'hui à être perceptible par le commun des mortels.
Et d'après vous, quels sont les enjeux politiques?
Mais je vous l'ai dit, à partir du moment où le gouvernement pense qu'aucune activité dans ce pays ne peut se faire en deçà de sa volonté. Une entreprise, aussi puissante qu'elle soit, ne peut pas dire, écoutez, je ne négocie pas. J'ai déjà signé un point, un trait. C'est une question de souveraineté nationale. C'est comme ça que le gouvernement perçoit la chose. C'est aussi vrai en même temps qu'après avoir signé une convention, et cette convention, elle a été signée à l'époque où il y avait un gouvernement d'union nationale. N'oublions pas, opposition aujourd'hui, majorité aujourd'hui, étaient tous dans un même gouvernement. Et cette convention est passée dans le 1 plus 4, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, cette entreprise peut revendiquer une très large représentativité de son contrat par rapport à l'État congolais. Mais est-ce que ça donne le droit de dire, écoutez, une signature a été faite, encore que tout à l'heure, l'honorable sergent Mbouyou a dit, il y a eu changement d'interlocuteurs, il y a eu beaucoup d'acteurs dans ce dossier. Les premiers acteurs à l'origine du contrat ne sont pas ceux qui sont aujourd'hui en face du gouvernement. Le gouvernement a le droit de revisiter ce contrat. On n'a pas dit de l'annuler, on n'a pas dit de le casser. Le revisiter, ça veut dire de réexaminer la question. Est-ce que la question du réexamen pose problème? C'est là où je suis un peu inquiet de l'intransigeance de quelques Congolais.
Honorable Célestin Vunabandi, vous venez de suivre Willy Kalingaï. Si je comprends, le gouvernement aujourd'hui a été trahi par le contexte dans lequel ce contrat a été signé.
Non, moi je ne pense pas. Lorsque vous regardez l'origine, un peu comme l'honorable Mbouyou l'a dit, lorsque vous regardez l'origine du contrat Nkefungurume Mining, vous constaterez que c'est un contrat qui a connu un parcours assez long, un parcours assez sinueux. C'est un contrat qui remonte pratiquement autour des années 2007, plutôt 1997, et qui a été ensuite renégocié pratiquement autour des années 2005-2006 au cours du gouvernement de transition. Il faut noter ici que c'est à la demande du partenaire privé que la renégociation a eu lieu à l'époque, parce que initialement le contrat était une convention minière, donc un arrangement en termes de convention minière qui prévoyait toute une série d'avantages fiscaux en faveur de l'entreprise, et en contrepartie de quoi les parts qui étaient réservées à l'État étaient assez légères, l'État et la Japonie, c'était autour de 40%. Mais Lundin, ou plutôt la partie privée, donc First Loge, a lui-même demandé plutôt de renégocier les contrats sous le régime du code minier, c'est ce qui a été fait. Et voilà, c'est un peu comme le ministre l'a expliqué, l'ancien ministre Mbouyou, l'entreprise devait désormais être soumise au paiement de tous les impôts et taxes, en contrepartie de quoi les actions revenant à l'État devaient être limitées à 5% et celles qui devaient revenir à la Gécamine devaient être négociées à la baisse. C'est cela qui a été fait. Donc il n'est pas exclu aujourd'hui, compte tenu de l'évolution, n'est-ce pas, de certains paramètres techniques et économiques, qu'une renégociation intervienne, au-delà du fait que la renégociation des contrats minières a été quelque chose qui a été demandé par plusieurs organisations, telles que même la Banque mondiale. Vous vous souviendrez aussi qu'il y a eu le rapport de la Commission Lutumba qui avait exigé que les contrats miniers soient renégociés. Il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais puisse se placer dans la logique de la renégociation. C'est une formule tout à fait normalement consacrée. Des conditions liées à l'évolution technique ou économique peuvent justifier cela. Et donc moi, je ne vois pas pourquoi le public aujourd'hui s'opposait à toute idée de la négociation.
Honorable Gunabandi, il y a cet auditeur, hein, Christophe Hassan de Dar es Salaam en Tanzanie, qui dit « TFM connaît déjà bien l'attitude de certains de nos dirigeants qui négocient toujours en position de faiblesse, considérant d'abord leurs intérêts égoïstes au détriment de l'intérêt supérieur de la nation. La vraie question, c'est de savoir comment en est-on arrivé à conclure un tel contrat. Alors qu'on parle de la tolérance zéro aujourd'hui, que va-t-on faire de ceux qui avaient engagé le pays dans un tel contrat ?» Vous, notamment, ancien ministre.
Non, j'expliquais que la renégociation d'un contrat, dans le cas d'espèce un contrat minier, peut être liée à plusieurs choses. J'ai expliqué qu'au départ, effectivement, il peut y avoir eu un contexte mauvais qui a conduit à négocier un mauvais contrat, ou à conclure un mauvais contrat. Mais j'ai aussi tout à l'heure dit que l'évolution d'un certain nombre de paramètres d'ordre technico-économique peuvent conduire, n'est-ce pas, cette évolution peut conduire à une renégociation d'un contrat. Je vous disais tout à l'heure que le partenaire privé lui-même avait demandé finalement de renégocier son contrat, en tenant compte du fait qu'il y a les causes minières qui venaient d'être mises, qui venaient d'être publiées, et c'est ce qui a fait justement que les parts de l'État, les parts de la Gécamine qui étaient d'environ 40% aient eu à baisser. Mais c'est vrai aussi que probablement il peut y avoir des clauses qui n'ont pas du tout répondu ou qui n'ont pas sauvegardé les intérêts de l'État. Il est tout à fait normal qu'aujourd'hui le gouvernement de la République décide de pouvoir le renégocier. Donc si il est avéré qu'il y a des clauses tout à fait normales qui ont été glissées dans ce contrat, il est tout à fait normal qu'on puisse essayer de revoir un peu l'historique de la chose, savoir dans quel contexte cela a été signé, et s'il y a des responsabilités, pourquoi ne pas les identifier et demander des comptes.
Maître Jean Bouillou, il y a Blanchard de Mbandaka, l'Équateur, qui dit « Le refus qu'affiche TFM pour révisiter le contrat minier démontre quelque part la faiblesse du gouvernement congolais. Si TFM résiste, c'est qu'il sait qu'il est en position de force. »
Non, d'abord, il faut que nous puissions noter qu'il y a beaucoup d'évolutions dans les récentes négociations en cours et qui vont se clôturer demain. Il y a par exemple la question de bonus de production, ça s'appelle la prime de production. La SNTF a finalement cédé face à la pression du gouvernement.
Cédé, c'est-à-dire
a accepté de payer ce qui lui a été exigé par le gouvernement du point de vue du bonus de production. C'est déjà une évolution. Et évidemment, il y a là-dedans des marges, c'est quelque chose autour de 30 millions de dollars. Et puis, bon, il y a des subdivisions techniques là-dedans. Mais par principe, ils ont accepté de rejoindre le point de vue du gouvernement de la Gécamine. Un autre point sur lequel il y a aussi un accord, c'est que 97% du personnel soit congolais. Et ceci est déjà effectif. Et il y a également un autre point sur lequel il y a déjà un accord, c'est que la question du pas de porte, eh bien, le principe de la révision est accordé. Ensuite, le point de vue du paiement. La Gécamine, à un moment donné, devait aussi participer financièrement aux efforts de la nouvelle société. Et Tinker Fungurume avait payé en lieu et place de la Gécamine, et ce principe, finalement, a été reconnu. On a intégré ce que Tinker Fungurume a payé. Donc, il y a quand même un certain nombre de points sur lesquels même Tinker Fungurume a évolué. Alors, il est resté de deux points principaux. La modification de 17,5. Si j'ai bien suivi les arguments de Tinker Fungurume, ce que rapporte la presse, au fond, parce que effectivement c'est assez confidentialisé, eh bien, ils disent qu'ils se trouvent dans une situation d'insécurité juridique, parce qu'ils ne sont pas certains, lorsqu'ils vont modifier le pourcentage de 17,5 à 20, 25 ou 30, qu'il n'y aura pas une nouvelle réclamation pour encore revoir ces dispositions. Donc, ils cherchent à s'assurer une sécurité juridique qui n'aura pas une remise en cause du côté du gouvernement. Et je crois que c'est plus ou moins légitime pour une partie privée qui contracte contre une partie qui est la puissance publique. Bon, en ce qui concerne maintenant les questions liées, l'autre point, les royalties, et là aussi, je crois que les débats sont quand même assez évolués, et je crois que les deux parties qui se sont communiquées depuis hier, je crois, et qui ont échangé les derniers avis, pourrait demain trouver un compromis acceptable. Et on dit toujours, en droit, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès.
Willy Kalengai, vous venez de suivre notre mouille, il y a beaucoup d'avancées hein, dans les négociations. Mais quelle image hein, donne la RDC sur le plan international?
L'image n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce qu'il y a hésitation, parce qu'il y a remise en question des choses consacrées par des textes, par des ordonnances présidentielles. Ce n'est pas une bonne image. En même temps, cette image-là nous colle à la peau parce que les sécurités juridiques, vous savez, quand un investissement minier, c'est pour une trentaine d'années. Ce n'est pas un pain qu'on achète au coin de la rue. C'est un investissement pour des longues années et des vies humaines sont construites autour de cet investissement-là. Alors, quand il y a beaucoup de changements qui n'ont pas une certaine cohérence et qu'il y a des réclamations contradictoires, il est tout à fait normal que l'image de la République puisse en souffrir. Et ça, le gouvernement devra répondre d'une manière ou d'une autre par rapport à cette détérioration du climat des affaires qui est due non seulement aux revendications légitimes du gouvernement, mais à la manière et à l'approche qui a été mise en place pour réclamer ces droits à la légitime.
Et il faut signaler que le rapport Doing Business 2009 nous plaçait, hein, la RDC en 153e position.
22.
Voilà. Alors maintenant, on est plus reculé que ça. Hein, donc les investisseurs ne sont pas les bienvenus en RDC.
Absolument, parce qu'aujourd'hui, il faut que nous puissions rassurer. Le climat des affaires va évoluer par le respect du texte que nous avons. La plupart des entreprises ne demandent pas des faveurs, demandent que le Congo respecte ses propres lois. C'est cela la vérité. Alors à partir du moment où le Congo lui-même remet en doute ceux qui ont signé les contrats qui sont du côté du gouvernement, le Congo ne fait pas une bonne figure.
Honorable Vounabandi, avant de vous donner la parole, Maître Mbouyou, honorable Vounabandi, l'image de la RDC hein, ne se fait que se ternir hein, sur le plan international, vous l'avez suivi, Willy Kalengai.
Oui, c'est vrai, l'image de la RDC ne fait que se ternir davantage. Là, il y a beaucoup de choses. Vous savez, l'insécurité juridique dans laquelle les entreprises, les opérateurs économiques et investisseurs se trouvent aujourd'hui, n'est pas seulement lié à ce phénomène, à ce problème de résiliation de contrat. Il y a plusieurs problèmes d'ordre économique qui font qu'aujourd'hui, l'image de la RDC ne fait que ternir. Mais la question liée à la résiliation de contrat, c'est une question, je pense, importante. Cela n'est pas propre à la République démocratique du Congo. Lorsque vous allez dans plusieurs États, il est de bon droit pour un gouvernement, lorsqu'il constate que ses intérêts n'ont pas été pleinement sauvegardés, qu'il puisse proposer une relecture et une régulation, comme je l'ai dit, du contrat. Bien entendu, ceci doit l'être dans le strict respect des droits qui régènent également à l'investisseur.
Maître Mbouyou.
Oui, bon, disons, on se plaint beaucoup du climat des affaires et de l'indécision. Mais dans ce cas précis, la position du gouvernement, qui a été citée d'ailleurs par des ONG internationales à renégocier ce contrat, a été appréciée positivement sur le plan international. En fait, on a estimé que dès lors que vous concluez un contrat avec une possibilité qui est donnée aux partenaires de vous priver de vos revenus en vue de rembourser la dette. Une fois la dette remboursée, ce partenaire peut consentir un peu plus au gouvernement. Pourquoi le gouvernement consent-il de se priver de certains droits pour que le partenaire rembourse, parce que nous sommes dans des cas précis de contrats d'État contre un privé. N'oublions pas que Tegefungurume Mining, c'est une entreprise privée, mais qui est partenaire à un État. Mais l'État lui accorde de rembourser entièrement, avec tous les premiers revenus, la dette à l'extérieur. Et donc, ce qui va venir, c'est des montants plus tard qui ne seront pas frappés d'endettement. Alors, si ce panier est favorable, pourquoi faut-il donner aux privés étrangers les 80% et vous-même le garder 80%? Donc, je crois que d'une certaine manière, la démarche du gouvernement tendant à dire, écoute, nous vous concédons de rembourser tout ce que vous avez pris comme dette, mais concédez-nous un partage un peu plus équilibré, tel qu'elle a été suggérée par plusieurs commissions d'enquête internationales. Cette démarche-là, pour moi, pour l'instant, elle est légitime. Elle est légitime. Mais je suis d'avis avec la société privée que dès lors que l'accord est obtenu, il faut qu'il y ait des moyens de sécurisation de cet accord pour ne pas mettre le privé dans une instabilité permanente.
Maître Mbouyou, il y a Willy Chika de Kamina au Katanga qui dit « Je ne m'explique pas qu'une entreprise étrangère parvienne à prendre des positions contre les décisions du gouvernement. Cela signifie que les gros poissons du pouvoir ont leur compte dans TFM. »
Non, pas du tout. D'ailleurs, ce que je regrette, personnellement, c'est que les gros poissons du pouvoir n'aient même pas essayé de visiter TFM. Je me suis donné la peine personnellement, puisque je suis un élu de Lubumbashi et donc de la région minière, je me suis donné la peine, je ne suis pas un gros poisson, je ne suis qu'un petit, alors, je me suis donné la peine d'aller jusqu'à Tekefungurume et de voir ce travail, et de voir ces investissements. C'est effectivement des investissements colossaux. C'est très très important qu'on n'a jamais eu en dehors de la Gécamine depuis l'indépendance. Et donc, je me dis d'une certaine manière, le gouvernement a intérêt que ce genre d'investissement puisse prospérer dans le pays pour en attirer d'autres. Mais ces investissements, aussi grands qu'ils soient, eh bien, doivent effectivement donner aux générations à venir un espoir de vivre mieux, eux aussi en tant que des jeunes Congolais et pas seulement aux sociétés multinationales.
Oui, dit Karinga, il y a Robert Baume de Bukavu, sur Kivu, qui dit que perdrait TFM si son contrat avec le gouvernement congolais était encore révisité.
Ça, il faudrait demander à TFM, effectivement, par rapport aux avantages que TFM a aujourd'hui, effectivement, on ne sait pas exactement ce que TFM perdrait. Mais je me dis que, d'une certaine manière, c'est une question de principe. Nous sommes ici en présence, je vous ai dit au début, dans une question de principe. À partir du moment où des principes sont érigés et qu'on doit les respecter, il faut les respecter. Nous ne sommes pas dans la comptabilité, dans l'arithmétique des chiffres. C'est d'abord une question de principe. Si nous avons signé une convention en 2005, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2009, nous puissions tout revoir? On nous dit, d'ailleurs, Maître Mbouy l'a dit, et que, ben voilà, parce qu'il y aura une période favorable, il est question que l'on puisse augmenter. Et qu'est-ce que nous vous dit, nous avons payé déjà plus de 100 millions de dollars en impôts et taxes depuis 2 ans. Vous savez, c'est énorme, c'est beaucoup d'argent, alors qu'il n'était pas encore en production. Ça, il ne faut pas l'oublier. L'État congolais et la Gécamine ont quand même engrangé, pendant ces 2 dernières années, par rapport à cette entreprise, beaucoup d'argent. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Bon, est-ce que le contrat a été équitable? La question a été posée de manière générale. Mais je vois que la réponse devient de plus en plus particulière. En tant que chaque entreprise, c'est cas par cas. Et pour le fait de Fungurume, je me dis qu'il y a d'abord un problème de communication à l'origine de ce contrat. Et aujourd'hui, il y a un problème de capacité de négocier. Parce que l'on négocie à huis clos, parce que l'on négocie en pensant que si le gouvernement recule, il perd de sa souveraineté. Et peut-être que Fungurume pense que si l'entreprise recule, elle va perdre tous les principes. C'est ce qui n'est pas bien.
Signalons que samedi dernier, le Sénat a adopté le rapport minier qui révèle beaucoup d'irrégularités dans la gestion du secteur minier en RDC. Il est fait mention de l'interférence des ministres et autres personnalités de l'État et le non-respect du code minier qui ne représente plus qu'un recueil de bonnes intentions. Qu'est-ce que ça représente finalement, Willy Kalingaï, au moment où le gouvernement lui-même ne tient plus compte de son propre code?
Vous savez, le code existe, et je crois que c'est un des très bons codes qui a été mis dans notre pays par rapport au secteur minier. Et des entreprises, vous avez des entreprises qui ont été créées et qui ont commencé aujourd'hui, ces entreprises commencent à entrer en production. Mais ici, nous avons un problème de corruption généralisée dans l'application des textes qui existent. Le Sénat a fait un rapport par rapport à la capacité des entreprises à contribuer de manière efficace aux revenus de l'État. Et les hommes, pas les textes, les hommes, que font-ils à leur poste chaque fois qu'ils doivent accomplir des tâches pour que l'État puisse se retrouver? C'est là où il y a le problème. Les textes en eux-mêmes sont bons. Notre code minier, certainement qu'il y a peut-être des choses que l'on pourra modifier plus tard, mais ce code minier a permis que des entreprises privées, que des capitaux privés arrivent dans le pays, que de nouveaux investissements, il faut aller au Katanga, comme l'a dit tout à l'heure l'honorable, pour voir comment le code minier a permis la relance de la production du cuivre. Mais ce sont les hommes que l'on a mis à des postes précis dans les régies financières de l'État pour pouvoir prendre la quote-part qui revient à l'État. Ce sont ces hommes qui ont organisé de manière efficiente une évasion fiscale énorme. Et c'est ça que le Sénat a condamné.
Pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début de cette émission, je vous en rappelle le contenu et les invités. Révisitation des contrats miniers à 1 semaine de l'expiration du délai accordé à l'entreprise Tekefungurume Mining d'augmenter les parts de la Gécamine. Cette entreprise minière dit qu'elle ne revisitera pas sa première convention signée entre elle et la RDC. Pourquoi ce refus de la part de TFM? Quelles sont les chances pour les deux parties de parvenir à un compromis? 3 invités participent à cet échange. Célestin Vounabandi, député national RCD, il était ministre du portefeuille à l'époque de la signature du contrat avec TFM, Jean Bouillou, député national PPRD et ancien ministre de l'Industrie, Willy Kalingaï, journaliste, il est directeur général de Géopolis, un magazine spécialisé dans le domaine des ressources naturelles. Vous voulez participer à cette émission, voici le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Quelles sont les chances pour le gouvernement Itenke Fungurume Mining de parvenir à un compromis? Pour Jean-Pierre Mouteba, secrétaire général de la Nouvelle Dynamique Syndicale, un syndicat qui travaille dans le secteur minier, toutes les parties en présence dans la signature de ce contrat doivent comprendre que ce contrat a été signé de façon illégale et qu'elles sont obligées de se mettre autour d'une même table et de trouver un compromis pour sauver cet investissement de plus de 2 milliards de dollars. Jean-Pierre Mouteba pense que ce sera et dans l'intérêt du gouvernement congolais, de la GECAMINE, mais aussi de TFM. On écoute Jean-Pierre Mouteba au téléphone de Kevin Couté.
En fait, je ne pense pas que TFM pourrait ne pas accepter la révision, d'autant plus que le contrat lui-même, tel que le Premier ministre, tel que nous l'avons nous aussi vu, il est illégal. Illégal dans la mesure où, quand vous regardez le contrat, les signataires, aussi bien du côté de Lunding et du côté de la GECAMINE et du gouvernement, ceux qui ont signé n'ont pas mis ni leur qualité, ni leur nom. Ce qui fait déjà, je parle de droit, un contrat qui est illégal. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les trois parties ont signé. Donc, en fait, ils ont l'obligation de pouvoir modifier et accepter et comme un accord de sauver les intérêts des intérêts sociaux.
Maître Jean Bouillou, vous nous avez déjà annoncé beaucoup d'avancées dans ces accords. Qu'avez-vous ajouté de plus?
Oui, simplement cette notion de contrat illégal qui m'embarrasse. Quand est-ce qu'un gouvernement qui négocie avec un parti privé, qui signe un accord, qui n'est pas renié, peut-être que les termes ne sont pas les meilleurs, mais les représentants du gouvernement à ce contrat sont bel et bien connus. Quand est-ce que ce contrat devient illégal? C'est ce mot, en fait, qui m'a beaucoup quelque peu chiffonné.
Et comment vous y répondez vous-même?
Non, je me dis, juridiquement, ce mot est impropre. Parce que le contrat qui a été conclu, qui a été signé par des représentants d'une partie, il peut être soit un contrat léonin, soit un contrat, disons, qui a des vices, dans lequel il y a des vices de consentement, mais on ne peut pas dire qu'il est illégal. Le mot, je ne sais pas si on l'emprunte à l'anglais ou quoi, mais je trouve qu'il est un peu rébarbatif. Mais je voulais ajouter également, parce que M. Kalinga semble beaucoup insister sur le fait que les prisons ont raison, je voulais ajouter rapidement qu'il ne faut pas oublier le contexte historique dans lequel le gouvernement a été amené à établir le code minier, notamment en réduisant la participation de l'État dans les capitales des sociétés minières. L'opinion mondiale, y compris celle de la Banque mondiale, était que la GECAMINE ne pouvait plus être refinancée parce qu'elle était mal gérée. Et que donc, puisque la GECAMINE ne pouvait plus être refinancée, toute idée d'entreprise publique devait s'arrêter. Il fallait confier les moyens des privés qui viennent exploiter, il fallait réduire l'intervention de l'État. C'est un régime qui nous a été appliqué essentiellement, nous les Congolais, suite à la gestion de la Deuxième République, mais beaucoup de pays, dans la gestion de leurs mines, bénéficient des conditions meilleures de participation. Et c'est cela qui a rendu, justement, difficile la négociation avec Lundin à l'époque.
Honorable Célestin Vounabandi, il y a Ukumu Wanok de Bouya en province orientale qui dit « La société minière TFM a refusé parce qu'elle sait que les autorités du pays sont celles qui en bénéficient, d'où elles sont dans l'incapacité de prendre une quelconque décision à son égard. Il n'y aura jamais un compromis qui soit au bénéfice de la population congolaise. »
Non, moi je pense qu'il ne faudrait pas pleurer être aussi pessimiste. Je crois que les éléments d'information qui viennent de nous être donnés, notamment par l'honorable Mbou qui est du Katanga, permettent de dire que les négociations vont bon train et que finalement les deux parties vont trouver un compromis. Je crois qu'on a cessé ici d'insister sur le contexte de l'environnement dans lequel ce contrat a été signé. D'abord, un contrat dont la signature a connu beaucoup de péripéties, beaucoup de modifications. D'ailleurs, initialement, je vous l'ai dit que c'était l'Union, en plus, c'est chez Chef Gorge. Initialement, c'était une convention, ensuite, c'était dans le contexte du code minier. Et donc, il y a beaucoup d'éléments qui ont concouru, finalement, à ce qu'on ait signé le contrat tel qu'il se présente aujourd'hui. Mais l'évolution des choses est telle qu'il est normal que les deux parties se retrouvent, renégocient, et apparemment, elles sont en voie de trouver un compromis. Donc, moi, je suis plutôt tout à fait optimiste.
Mais vous avez suivi, hein, Willy Kalinga est conforté par le rapport minier au Sénat. C'est encore un problème d'hommes qui vont organiser des mafias, ainsi de suite. Comment garantir que cet argent aille réellement dans les caisses de l'État?
Oui, c'est vrai. La question, donc, c'est une question pertinente. Je crois qu'en même temps qu'on négocie, en même temps que le gouvernement renégocie, en même temps que le gouvernement doit prendre les mesures qui s'imposent pour mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, pour restructurer les régies financières, pour assainir les services de l'État. Il faut finalement que le principe de tolérance zéro s'applique à tout le monde et que la sanction soit réhabilitée. Et donc, il ne suffira pas de renégocier le contrat. Il faudra également qu'il y ait des hommes de qualité, des hommes compétents, intègres pour appliquer les accords qui auront été conclus.
Oui, Kalinga, il y a cette auditrice de Lubumbashi qui nous écrit. Henriette, elle dit, je suis agent de cette entreprise TFM. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'un contrat pareil est signé, mais je constate avec regret que nos autorités se sont montrées faibles par rapport à l'entreprise, car chaque semaine, au moins une autorité passait dans cette entreprise, pas pour l'intérêt de la population, mais pour ses propres intérêts. À qui profite toute cette situation en fermant cette entreprise? Vraiment, je suis inquiète de la situation et je me demande sur base de quoi est faite cette révisitation de ce contrat avec TFM.
Je crois que la raison de se plaindre, parce qu'elle vit une situation qui est en train de devenir une tragédie. Et ce n'est pas seulement par rapport à quelques Congolais, mais il faut descendre un peu plus bas, à 300 km, pour arriver à Kolwezi, parce que là où il y a aussi notre entreprise qui a eu le même démêlé avec l'État congolais.
Maître Mbouyou ne semble pas très d'accord avec vous.
Mais laissez-moi d'abord terminer. Donc, je disais effectivement que nous avons là deux niveaux d'appréciation de ce dossier. Il y a le niveau de l'impact immédiat d'un investissement dans la population, les emplois qui sont engrangés, et les avantages sociaux et l'investissement au niveau social. Les Congolais ont le droit d'apprécier une entreprise par son impact social, pas seulement par le bénéfice que l'État engage, pas seulement par le montant qui sont investis et la quantité de produits, les produits ou les tonnes contenues. Mais ici, les deux niveaux doivent être appréciés. Les ONG qui ont demandé qu'on puisse résister le contrat dans leur argumentaire, les ONG ont dit effectivement sur le plan social, nous ne voyons pas clair. Les travailleurs de TFM qui se plaignent, et nous sommes des journalistes, nous allons sur le terrain, de temps en temps, ils se plaignent aussi. Ils se disent, écoutez, notre entreprise, effectivement, c'est les rois, ils imposent à qui Dieu vient ici. Les ministres viennent visiter les installations, visiter nos chefs, mais ne parlent jamais aux travailleurs. C'est la vérité. Donc ça a été fait, et moi j'ai constaté ça deux ou trois fois.
Votre conclusion déjà, parce que nous sommes presque à la fin de l'émission.
Je me dis que le plus important, à l'instant présent, c'est de préserver l'investissement. Il faut préserver l'investissement, il faut préserver les intérêts des travailleurs, il faut préserver les intérêts de l'État et aussi de l'entreprise.
Maître Jean Bouillot, un mot aussi en guise de conclusion.
Oui, je dirais que l'État a raison d'obtenir un peu plus pour lui-même, pour sa population. Et je soutiens donc l'idée que de ces avancées qui ont été obtenues dans la négociation et qui pourraient être consacrées demain. Mais une fois que cela est fait, il faut sécuriser l'investisseur et éviter par des biais de corruption, d'autres subterfuges, de décourager ceux qui investissent.
Honorable Vounabandi, un mot aussi en guise de conclusion.
Oui, pour conclure, je pense qu'il faut encourager les deux parties à poursuivre les discussions et à trouver un compromis, comme je l'ai dit. Mais au bout de compte, le gouvernement ne doit pas s'arrêter là. Il doit prendre les dispositions qui s'imposent pour sécuriser les investisseurs, mais également les rassurer et veiller en sorte que le droit de l'État soit préserver que ce qui revient à l'État soit payé.
Merci à vous, nos invités, Willy Kalinga et Maître Jean Bouillou, honorable Célestin Vounabandi. C'est par ici que nous terminons cette émission. Jimaté l'a réalisée, héritier Fidiakal à la mise en onde pour que vous nous receviez correctement chez vous. Kevin Kouté, Samuel Kachak vous l'ont préparé sous la coordination de Martin Sebou-Jangwe. Restez branchés sur Radio Capi.